15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Je suis ravie de vous retrouver ce mercredi, comme tous les jours. Pendant une heure, nous allons répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. Et pour ce faire, il est chez lui, mais avec nous en direct, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au programme, nous accueillerons d'abord une pédiatre. Des questions concernant les risques pour les enfants, vous nous en posez beaucoup. Et qu'en est-il aussi du suivi médical habituel des enfants, de la vaccination par exemple pour les bébés? Peut-on repousser un peu notamment les injections prévues dans le calendrier vaccinal? Nous ferons le point avec le docteur Fabienne Cocher. Elle est présidente de l'association de formation professionnelle en pédiatrie. Ensuite, vous le savez, dans son rendez-vous, on continue de vous informer tous les jours, bien sûr, malgré le confinement. Mais justement, confinement oblige, nous on essaye aussi de vous faire du bien. Et aujourd'hui, on va parler beauté, comment prendre soin de soi et même comment s'épiler à la maison tout seul quand on a l'habitude de confier cette tâche à une professionnelle. Pour nous aider, notre invitée, ce sera une spécialiste de la beauté, Maud Ravier. Elle est esthéticienne et fondatrice de Maud Dermo-Esthétique. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue, qui va aujourd'hui nous parler des difficultés des célibataires en quête de l'âme sœur et évidemment des difficultés qu'ils rencontrent depuis le début de cette épidémie.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, docteur Fabienne Cocher, bonjour.
Bonjour madame.
Je précise que vous êtes pédiatre à Orléans et présidente de l'association de formation professionnelle en pédiatrie, l'AFPA. Docteur Cocher, on reçoit beaucoup de questions ici de parents depuis le début de cette pandémie. D'abord, on va peut-être revenir avec vous sur les risques justement des enfants, donc en général, hein, vis-à-vis de ce virus. Étant donné qu'on a l'impression que tout change tout le temps, qu'on en découvre en permanence sur ce virus, d'abord, est-ce que vous confirmez que les enfants sont toujours assez épargnés par ce problème ?
Toute la complexité avec le coronavirus, c'est que c'est un virus que nous connaissions très peu il y a deux mois et demi. Nous avons à présent beaucoup de recul et toutes les données sont concordantes avec ce que nous observons sur le terrain, à savoir que les enfants sont particulièrement épargnés par cette pandémie Covid-19. Les enfants sont peu malades, peu hospitalisés, peu vecteurs de virus, peu contagieux entre eux, peu contagieux envers les adultes, et toutes ces données sont rassurantes et nous permettent à nous pédiatres de rassurer les parents par rapport à une réouverture progressive des écoles.
Docteur Jimmy Mohamed.
Oui, donc vous dites que les données sont plutôt rassurantes chez les enfants, mais les enfants, ça va des nouveau-nés jusqu'au grand adolescent. Est-ce qu'on a une idée de la répartition? Est-ce que c'est vraiment uniforme entre les bébés, les enfants de 5-10 ans et puis les adolescents en termes d'infection et de transmission de la maladie?
L'analyse des données est particulièrement difficile en raison des seuils définis par les différentes études. Vous savez que les études sont nombreuses, il est difficile de tout suivre et toutes les publications ne prennent pas les mêmes tranches d'âge. Alors vous avez des études qui font référence au moins de 10 ans, vous avez des études qui font référence au moins de 15 ans, d'autres au moins de 18 ans. Si l'on fait une synthèse pour vos auditeurs, pour ne pas compliquer les choses, on peut dire que les moins de 10 ans sont particulièrement peu touchés par le Covid-19. Il y a quelques cas graves chez des petits nourrissons, mais qui en nombre sont extrêmement faibles.
Donc de 0 à 6 mois, hein, c'est ça par exemple, enfin 0 à 6 mois, 0 à 1 an, quoi, oui, d'accord.
Voilà, les 0 à 1 an, il y a eu quelques cas. Mais si l'on reprend l'ensemble des chiffres d'enfants de moins de 10 ans, il y a eu, je crois, une vingtaine d'enfants admis en réanimation en France depuis le début de l'épidémie, dont 10 qui présentaient déjà des comorbidités, donc d'autres affections graves et rares.
Donc au vu de ce que vous dites, j'imagine que la reprise progressive de l'école, pour vous en tant que pédiatre, ça ne vous inquiète pas particulièrement d'un point de vue médical pour eux en tout cas?
Non seulement nous ne sommes pas inquiets, mais nous sommes plutôt rassurants par rapport à toutes ces données. Je ne vais pas revenir dessus, hein, puisque j'ai bien insisté sur le fait que les enfants étaient particulièrement épargnés. Mais nous avons aussi, nous, le retour sur ce qui s'est passé sur le terrain. Par exemple, par rapport aux enfants qui ont continué à être scolarisés dans certaines écoles, pour ce qui concerne les enfants des soignants, ils sont continués à aller à l'école. ce sont quand même des enfants qui sont à la maison en contact avec des soignants, eux-mêmes en contact avec des personnes malades. Il n'y a pas eu de clignotant dans ces écoles-là. Tout s'est bien passé, y compris pour les écoles et pour les crèches qui ont continué à fonctionner pour les enfants de parents soignants.
D'accord. Docteur Jimmy Mohamed.
Donc le confinement va être levé de façon progressive la semaine prochaine. On se pose évidemment la question des visites aux grands-parents. Est-ce que les enfants auront droit de les embrasser? Est-ce qu'il faudra porter des masques? Et nous, est-ce que nous devrons respecter une distanciation physique avec les grands-parents de la même façon?
Alors, vous savez, nous, on observe des enfants qui ont envie de sortir de chez eux et des grands-parents qui se languissent de leurs petits-enfants. Tout le monde est resté confiné, ça a été un mal nécessaire en cette période d'épidémie, puisqu'il fallait éviter la mise sous tension des services hospitaliers. Fort de tout ce que nous savons à présent, à savoir que les enfants sont peu malades, peu vecteurs de virus, et qu'en plus ils étaient confinés chez eux, enfin ils sont confinés chez eux depuis presque 2 mois. Ben, je dirais que là, les enfants, ils ont le droit d'aller voir leurs grands-parents et on a le droit d'avoir un peu d'interaction et de contact rapproché avec ses grands-parents. Nous sommes tout à fait rassurants et il faut que les enfants puissent aller voir leurs grands-parents. Il n'y a pas de risque actuellement pour que les enfants aillent voir leurs grands-parents.
Il y a eu quand même une récente alerte sur les réactions peut-être secondaires donc du Covid-19. On parle de symptomatiques qui seraient liées à la maladie de Kawasaki chez des enfants âgés de 5 à 15 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus pour rassurer peut-être les parents qui nous écoutent?
C'est une alerte qui date de la semaine dernière et qui émane des services de réanimation, en particulier de l'hôpital Necker. Alors il faut bien savoir que l'hôpital Necker est l'hôpital qui, à Paris, a rassemblé tous les enfants malades gravement du coronavirus et qui a rassemblé aussi ces enfants qui ont été admis pour des syndromes inflammatoires particuliers qui se manifestaient au début par de la fièvre. Donc ils ont été admis à l'hôpital Necker. Mmh. Il faut savoir qu'il s'agit d'affections inflammatoires que les pédiatres connaissent bien, mais qui là touchent plutôt des enfants un peu plus grands. La maladie de Kawasaki est une maladie inflammatoire qui fait suite en général à une pathologie infectieuse non spécifique passée inaperçue. Les services hospitaliers ont l'habitude de voir environ un enfant par mois avec un syndrome de ce type-là, et ceci touche plutôt les enfants de moins de 5 ans. Alors là, l'alerte vient du fait qu'il y a eu plusieurs cas, une quinzaine au début, la première semaine, puis 15 autres. Actuellement, on serait plutôt à 40, 45 cas d'enfants un peu plus grands. Qui ont plutôt entre 5 et 15 ans et qui présentent des manifestations qui se rapprochent de la maladie de Kawasaki. Alors, certains sont positifs, enfin, ont des anticorps dirigés contre le coronavirus, ça veut dire qu'ils ont été en contact avec le coronavirus. Oui. Ce sont des cas qui sont surveillés, suivis. Les équipes hospitalières font un recensement de l'ensemble de ces cas. Toutes les données vont être analysées. Il faut bien voir que là, c'est un signal d'alerte de un cas par mois. On passe à une quarantaine, une cinquantaine sur quelques semaines.
On surveille, mais ça reste très rare. Ouais.
Mais ça reste très rare par rapport à l'ensemble des enfants de l'Île-de-France. Et ce n'est pas pour nous médecin, surprenant de voir apparaître quelque chose d'un petit peu particulier, de désordre de l'immunité après une grosse vague épidémique telle que nous l'avons connue. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucun cas grave et que ces affections répondent à des traitements spécifiques qui sont des perfusions d'immunoglobuline. Et il y a surtout un signal fort sur Paris à l'hôpital Necker. Sur le reste de la France, c'est très faible.
Donc on surveille ça de très près. Merci docteur Cochère, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, on va poursuivre cet entretien consacré à la santé des enfants et on va passer à présent à leur suivi médical global, on va dire. Doit-on poursuivre par exemple les gestes comme la vaccination chez les tout-petits? Y a-t-il un risque si on retarde de quelques mois une injection chez un nourrisson? On fait le point juste après, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors elle est toujours en ligne avec nous, docteur Fabienne Cochère. Vous êtes pédiatre à Orléans et présidente de l'association de formation professionnelle en pédiatrie, l'AFPA. Docteur Cochère, on va s'arrêter à présent sur la santé de nos enfants hors Covid, on va dire. Les autres maladies infantiles sont toujours là, même si on imagine bien que les viroses en général, elles ont bien diminué du fait du confinement. Mais un enfant, ça peut avoir une gastro, une otite ou autre chose. Est-ce que les pédiatres assurent toujours les consultations pour ces maladies du quotidien des enfants?
Comme vous l'avez dit, avec le confinement, la plupart des maladies virales habituelles ont disparu de nos cabinets. Les enfants étant confinés chez eux, ils n'ont plus les gastro-entérites, ils n'ont plus les rhinopharyngites et ils n'ont plus d'otite. Et nous n'avons jamais vu des tympans aussi beaux.
Mais ça, c'est une bonne nouvelle, au moins.
L'épidémie.
Au moins des bons côtés.
Sauf que rester confiné chez soi, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie pour nous et ce n'est pas une vie pour nos enfants qui ont besoin de ressortir. Alors, qu'avons-nous fait pendant toute cette période épidémique, à part nous documenter tous les jours sur le coronavirus, ce qui prend beaucoup, beaucoup de temps? Nous avons continué à travailler dans nos cabinets et nous avons eu quand même fort à faire parce que, dans ce contexte épidémique, il a fallu que les hôpitaux prennent des dispositions. Et malgré la vague coronavirus, ben les femmes ont continué à accoucher, les femmes ont continué à avoir des jumeaux, des enfants prématurés, qu'il fallait faire sortir de manière un peu précipitée des hôpitaux. Et nous, pédiatres, sur les terrains, nous avons été présents pour accompagner les parents, voir les bébés en consultation, faire les examens de sortie de maternité précoce. Et ça a représenté une forte activité pendant cette période de pandémie. Par ailleurs, nous avons dès le début fortement communiqué sur la nécessité de poursuivre le calendrier vaccinal des nourrissons. Tout simplement parce que nous savions bien que nous allons nous inscrire dans la durée. Là, nous avons tous été confinés pour avoir une vague moins forte et pour éviter la tension dans les hôpitaux telle qu'elle a été vécue dans certaines régions où le virus a beaucoup sévi. Et donc, nous avions bien compris qu'il ne fallait pas retarder les vaccinations des nourrissons.
Justement, j'allais vous dire, vous avez remarqué sur le terrain vraiment une baisse très très forte, très brutale de la vaccination des nourrissons en particulièrement ou pas? Il y a des chiffres déjà qui existent?
Le signal d'alerte, c'est une chute de vente des vaccins dans les pharmacies. Il y a une nette diminution de vente de certains vaccins comme ceux contre rougeole, oreillon, rubéole, mais aussi contre les vaccins des tout petits nourrissons qui sont vaccinés à partir de l'âge de 2 mois contre des maladies qui peuvent être graves, comme la coqueluche qui risquerait de réapparaître. Il y a eu d'ailleurs récemment quelques cas à l'hôpital au CHU de Tours, dont un nourrisson hospitalisé en réanimation. Oui. Et d'autres affections contre lesquelles les petits nourrissons sont vaccinés, comme l'hémophilus qui donne des méningites, le pneumocoque qui donne également des méningites. Et donc, il est nécessaire de poursuivre cette vaccination. Nous, les pédiatres, nous avons largement communiqué. Nous avons, dès le début de l'épidémie et du confinement, fait un communiqué de presse pour dire que nos cabinets étaient organisés pour que les patients puissent venir en toute sécurité, que les parents puissent venir avec leurs nourrissons. Malheureusement, ça n'a pas été assez suivi. Alors, effectivement, il y a eu le message fort de rester chez vous, que les parents ont entendu partout sur les ondes. Et beaucoup ont eu peur de venir nous voir. Personnellement, j'ai une secrétaire qui a fait beaucoup de pédagogie, parce que le fait d'avoir une secrétaire, ça fait une interface, les parents...
On entend un nourrisson derrière vous qui vient d'être vacciné, je pense, puisqu'il pleure. Non, je plaisante, mais on voit qu'il y a encore des patients dans votre...
Il y a de l'activité dans mon cabinet.
Dans votre cabinet, on l'entend.
Je peux vous répondre parce que je suis aussi maître de stage en pédiatrie et j'ai une interne qui est en fin de stage, qui fait là un mois de plus en raison de l'épidémie Covid. Les changements d'interne se font un peu plus tard et donc elle est parfaite et elle fait les consultations de petits nourrissons aujourd'hui.
Très bien.
Ça permet de répondre à vos questions.
Parfait. Dimi Mohamed.
Oui, parce que une des craintes des parents, moi je le vois au quotidien lorsque je fais des visites à SOS Médecins, je vois un adulte et puis il me dit au fait, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil à l'examen de mon fils? Je ne veux pas consulter que pour ça, on a peur d'attraper le coronavirus juste en allant chez le cabinet du pédiatre ou du médecin traitant. Est-ce qu'on peut rassurer les parents sur le fait que des dispositions ont été prises et que le risque est plutôt faible, voire inexistant dans les cabinets?
Alors, nous avons pris des dispositions drastiques. Je peux vous dire que là, on a appliqué des mesures que je n'avais jamais envisagées il y a 3 mois. Nos salles d'attente sont vides. Nous avons supprimé, au grand désespoir de nos petits patients, tous les jouets, tous les magazines. Il n'y a plus rien, plus de livres. Et les rendez-vous sont pris à l'heure. Les patients sont sommés de venir à l'heure. Il n'y a pas d'attente dans la salle d'attente. Et nous avons tous des plages de rendez-vous de l'ordre d'une demi-heure, ce qui réduit effectivement le nombre de patients reçus. Mais ça permet aux parents de venir en toute sécurité dans nos cabinets pour faire vacciner les nourrissons.
Bien,
alors,
c'est très important au début de l'épidémie,
il y a encore eu quelques appels pour des pathologies aiguës. Je vous rappelle qu'au début de l'épidémie, il y avait encore des fièvres liées à des grippes. Et oui. Donc, nous nous sommes tous organisés pour faire du tri téléphonique, pour ne recevoir au cabinet que les enfants qui devaient avoir un examen médical, et ceux qui devaient être reçus au cabinet étaient reçus en fin de demi-journée de consultation pour qu'il n'y ait pas de mélange entre les petits nourrissons fragiles et les enfants malades.
Bien sûr.
Alors je vais vous dire juste par rapport aux téléconsultations, les enfants malades actuellement, il n'y en a plus, ils ont été confinés chez eux, il n'y a plus tellement de tympans à regarder, mais ça va revenir lorsque les enfants vont aller à l'école. Et là encore, il faut rassurer les parents. Moi, je suis pédiatre. Pour faire un examen médical, pour poser un diagnostic chez un enfant qui est fébrile, il faut regarder la gorge, il faut regarder les tympans, oui. Il faut ausculter. Je ne
la
sais
téléconsultation,
pas faire ça
si peut-être pas en pédiatrie. Juste un mot pour terminer rapidement sur les enfants un peu plus grands, parce que là, on a compris l'importance des vaccins, du suivi chez les tout-petits, mais les vaccins, par exemple, les rappels chez les plus grands, les ados, est-ce que ça, c'est important ou est-ce qu'on peut se permettre de repousser un peu quand il s'agit de rappels rapidement, s'il vous plaît?
Chez un adolescent, il est important de ne pas oublier les rappels vaccinaux. Maintenant, on n'est pas dans la même temporalité. De décaler un rappel vaccinal de quelques semaines, voire d'un mois ou deux, ça n'a pas de conséquences sur la santé de l'adolescent. Mais effectivement, tous les adolescents, tous les jeunes enfants qui ont des rappels de vaccins à faire, il ne faut pas trop les retarder, et j'invite tous les parents à reprendre contact avec leur médecin, qu'il soit pédiatre ou médecin généraliste, pour que les rappels vaccinaux ne soient pas oubliés. Le risque, c'est qu'ils soient oubliés.
Le message est passé. Merci beaucoup, docteur Cochère, d'avoir été avec nous. Merci pour ce point sur la médecine pédiatrique. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions, celles nombreuses que vous nous laissez tous les jours sur le répondeur d'Europe 1. Tout ça, c'est dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, Jimmy, justement, on va prendre le temps, je l'ai dit, de répondre à quelques-unes des nombreuses questions que vous, auditeurs d'Europe 1, vous nous avez laissées sur le répondeur, donc le 3921. Et on va commencer par la question de Nathalie. On l'écoute.
Je souffre d'une addiction, j'ai des troubles alimentaires donc de type boulimique. Le confinement est donc très compliqué à ce sujet. Et ma question était sur justement le fait de faire ses courses. Moi, je suis obligée de sortir 2 fois par jour ou 1 fois donc pour aller acheter de la nourriture. C'est très anxiogène et j'aimerais vraiment qu'on puisse parler des gens comme moi qui ont une addiction et qui ne peuvent pas faire autrement. J'ai beaucoup de culpabilité à faire ces achats-là dans le contexte actuel. Donc voilà.
Bon, Jimmy, je crois que déjà on peut dire à Valérie qu'il n'y a aucune raison de culpabiliser, évidemment. Elle souffre d'une addiction et on le comprend et on va l'aider sûrement à trouver une solution. Jimmy, qu'est-ce qu'on peut lui proposer à Valérie pour essayer d'aller un petit peu mieux en tout cas?
Bravo à elle déjà de témoigner. Ensuite, il faut savoir que les psychologues font évidemment de la téléconsultation, on en parle beaucoup, mais probablement que ce nouvel outil va peut-être révolutionner les consultations. Et puis, vous avez une plateforme, la plateforme Covid Écoute. Vous choisissez un professionnel de santé, un horaire, on vous rappelle, c'est gratuit. Ça permet d'avoir soit des psychologues, des addictologues qui sont bénévoles. On les félicite encore une fois. Et puis, vous répondez à un petit questionnaire. Vous avez une séance qui peut durer 45 minutes, 1 heure, ça dure très longtemps. C'est renouvelable autant que besoin, donc n'hésitez pas. Et puis enfin, si vous devez devez absolument faire vos courses, ne culpabilisez pas, vous devez vous protéger. Des masques sont disponibles à la pharmacie, vous les achetez, des masques en tissu, vous respectez des règles de distanciation sociale, vous lavez bien les mains et ça devrait aller. Mais surtout, n'hésitez pas à consulter, peut-être qu'un praticien peut vous aider.
Il ne faut pas du tout culpabiliser, effectivement, il y a des solutions. Alors, autre question, beaucoup d'auditeurs, Jimmy, s'interrogent sur la persistance du virus sur les surfaces et quels produits désinfectants utilisés pour s'en débarrasser. On en a reçu beaucoup des questions, hein. On nous demande si on peut se laver les mains à la Javel, enfin plein de choses diverses et variées. Là, on va écouter une autre question dans laquelle il est justement question de ça. On l'écoute.
Est-ce que l'alcool à brûler, appelé encore alcool ménager, peut être efficace pour désinfecter les poignées de porte et les interrupteurs? L'alcool à brûler, étiqueté comme étant à 90 degrés, l'alcool appelé ménager, c'est 70 degrés. Je voudrais savoir si c'est efficace sur les poignées de porte et les interrupteurs. Merci.
Bon, je vais vous laisser répondre, Jimmy, mais je pense que 70 degrés, 90 degrés, ça devrait être bon pour désinfecter. Alors, pas les mains, hein, surtout, mais les poignées de porte, c'est bien, non ?
Oui, vous avez raison. Alors, dans l'idéal, c'est quand même d'avoir de l'eau de Javel diluée. On ne laisse pas traîner ça à la portée des enfants. Effectivement, vous pouvez utiliser de l'alcool. 70 degrés, ça marche. Donc, 90 aussi. Mais attention, l'alcool est inflammable. Donc, on évite d'en balancer partout. C'est pas forcément nécessaire. Mais c'est un produit efficace. En revanche, attention, on évite le vinaigre, la fausse bonne idée. Le vinaigre
oui,
n'est pas un virucide.
Ouais. Oui, moi, j'ai utilisé beaucoup virus pour le ménage en général avant. Mais avant tout,
voilà,
c'est
pour nettoyer.
De virus, bien sûr. D'accord.
Pour nettoyer un biberon où il y a un peu de lait caillé. Mais en revanche, pour désinfecter, ça ne marche pas. Au bloc opératoire, un chirurgien, s'il venait avec sa petite bouteille de vinaigre, vous seriez un petit peu inquiet, à juste raison. Donc, l'alcool à 90 degrés, oui. L'eau de Javel aussi.
D'accord, très bien. Allez, on va prendre une autre question à présent. On va écouter celle de Marie-Françoise.
Je vais vous téléphoner au sujet de mon centre aquatique qui envisage de reprendre les cours d'aquabike. Donc, je voulais savoir si le virus pouvait se retrouver dans l'eau de la piscine. Voilà, merci beaucoup.
Bon, alors c'est vrai que les piscines, elles ont fermé très tôt, hein, depuis le confinement, et je ne crois pas qu'ils soient. Enfin, moi, il semblait qu'elles n'étaient pas prévues de rouvrir tout de suite, mais bon, apparemment, chez Marie-Françoise, c'est le cas. Jimmy, vous pensez quoi de ça, des piscines, du virus, je ne sais pas.
Bah écoutez, alors il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. A priori, l'eau ne serait pas un vecteur de la maladie, même si, rappelez-vous, on a redécouvert dans les circuits d'eau non potable des traces du virus. On ne sait pas si c'est contagieux. En revanche,
elle est chlorée quand même, hein, non ?
Exactement. Donc en principe, ça devrait tuer le virus. Il faudrait être prudent, justement, dans les vestiaires, en respectant les gestes barrières. Mais encore une fois, je pense que vous avez raison. Les piscines devraient être encore fermées, comme les salles de sport. Je ne suis pas sûr qu'elles ouvrent tout de suite. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de reprendre pour le moment peut-être une activité en plein air vu que les forêts sont possibles, mais soyons prudents puisqu'on s'est beaucoup trompé et il ne faudrait pas que dans 2-3 mois on se rende compte que les piscines puissent être un vecteur de la maladie.
Bien sûr, et donc la fin progressive du confinement, ça ne veut pas dire tout de suite on reprend toutes les activités collectives. Il va falloir encore rester très prudent pendant un certain temps. Sur le répondeur d'Europe 1, le 3921, on reçoit aussi des questions de personnes qui sont en difficulté, parfois comme Geneviève. On va écouter sa question tout de suite.
Une question pour Mélanie ou pour Jimmy. Je suis aveugle de chez aveugle. Avant le confinement, j'allais avec mon aide à domicile faire une marche de 3/4 d'heure 2 fois par semaine. Bon, depuis le confinement, je suis à la maison. Après le 11 mai, qu'en sera-t-il ? Aurais-je le droit d'être toujours au bras de l'aide à domicile, puisqu'il faut soi-disant une séparation de 1 mètre entre chaque personne, pour moi, il n'en est pas question. Je vous remercie. J'attends la réponse à la prochaine émission. Bientôt.
Alors, la prochaine émission, peut-être que ce n'était pas tout à fait... Je ne sais plus quand vous nous avez laissé cette question. J'espère que vous nous entendez, Geneviève, en tout cas. Jimmy, qu'est-ce qu'on peut répondre à Geneviève, qui est donc aveugle
Oui, alors là, c'est une question presque administrative. Il n'y a pas de raison que les aidants ne puissent pas revenir vous aider, puisque vous êtes dépendante et vous avez besoin, pour garder une autonomie, pour garder un lien social aussi, d'avoir ces personnes. D'autant plus que désormais, on sait que les salariés de l'aide à domicile via le CESU pourront avoir 15 masques par semaine pour pouvoir se protéger, vu que la distanciation sociale ne sera pas possible. Vous devez être au plus proche des soignants. Même chose pour les accueillants familiaux. Ils pourront avoir 3 masques par semaine et par personne accueillie. Donc en principe, toutes ces règles devraient être assouplies et il est évident qu'à la sortie du confinement, on devra continuer de vous aider. Donc moi, je répondrai plutôt oui.
Très bien. Alors, on va prendre une dernière toute petite question qui nous a été laissée par un fidèle auditeur sur le hashtag Radio Ouverte. C'est Thibaut Normand, qu'on salue évidemment. Il nous demande, Jimmy, si lorsqu'on sort faire son heure d'activité physique et qu'on croise des fumeurs, non masqués évidemment, parce que pour fumer, c'est sûr que c'est plus pratique, même si c'est très mal de fumer évidemment, est-ce que leur fumée, qui ne respecte pas de fait la distanciation sociale, est-ce qu'il y a un risque pour lui de contamination via la fumée qui peut l'atteindre ?
Alors déjà, le risque de contamination est plutôt faible, voire nul d'après les études à ce jour du coronavirus en plein air en ce qui concerne la fumée de cigarette. Il y a eu plusieurs études qui montraient que la fumée de tabac pouvait être un vecteur et puis finalement, le ministre de la Santé, enfin le professeur Salomon, le DGS, a affirmé que c'était une fausse étude finalement, qu'il ne faut pas tenir compte de cela. Donc a priori, la fumée de tabac ne serait pas vecteur de la maladie, ce qui veut donc dire qu'il faut être prudent. Une étude est contredite par une autre d'une semaine à une autre, donc soyons prudents, mais non, la fumée de tabac en plein air n'est a priori pas vecteur de la maladie, même si mieux vaut se mettre à distance.
J'allais le dire, de toute façon, restez loin des fumeurs. Hein. Si vous êtes non fumeur, il n'y a pas de raison que vous en approchiez. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions et d'avoir pris le temps de répondre à tous nos auditeurs.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous revient et à présent, on passe à la partie bien-être de cette émission. Aujourd'hui, on va parler beauté. Nous allons vous donner des conseils cosmétiques et on parlera même épilation. Pas toujours évident de s'épiler tout seul pour ceux ou celles qui ont l'habitude de faire ça chez une esthéticienne. Mais avant ça, place à la musique avec la chanteuse Naya et son titre « Girl on the Moon ».
On the moon, as of now we can't see her. No hope she will be back soon. She's free, she defies the law of gravity. She can become your best friend if you look her by the sky each night. But in your dream, see the girl on the moon. Your girl on the moon. No, I hope she will be back soon. See the girl on the moon. Your girl on the moon. I should have said our safe place to stand. How many miles away, like a star shining bright in the dark of the night.
Ça fait du bien un peu de musique sur Europe 1. C'était la chanteuse Naya avec son titre Girl on the Moon.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission santé. À présent, on va vous chouchouter, on va parler beauté, mais beauté en mode confinement bien sûr. Et pour cela, on accueille une spécialiste, Maud Ravier, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors Maud, vous êtes esthéticienne et fondatrice de Maud Dermo-Esthétique. Alors vous allez nous aider à rester bien dans nos baskets, à prendre soin de nous, et il y a du boulot. Alors chez moi peut-être un peu, chez Jimmy beaucoup, ça c'est certain. On va commencer par le haut, par celui qu'on voit tous les jours dans le miroir, notre visage. Comment on fait pour garder bonne mine malgré l'enfermement? C'est vrai qu'on manque tous de soleil, de lumière. C'est quoi votre recette à vous pour avoir une peau comme si on était parti 2 mois en vacances? Je ne sais pas si vous avez la recette miracle, mais dites-nous.
Moi, j'en ai des pas mal à vous proposer. Effectivement, la période, vraiment, cette période s'est fait exprès pour chouchouter sa peau. On en profite, on ne se maquille pas, on reste un petit peu naturel à la maison. Donc, on va mettre en avant les gommages et les masques. Alors, pas n'importe quel gommage et pas n'importe quel masque, bien sûr. Et j'ai plein de petites recettes à vous donner. Au niveau des gommages, on a, il ne faut pas oublier que c'est le meilleur ami, c'est le meilleur anti-rides qui existe. Donc, j'ai plein de petites recettes à vous donner.
Allez-y. Alors, donc, en termes de gommage, on fait quoi? Parce que bon, on n'a peut-être pas toutes des produits à la maison. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire peut-être avec ce qu'on a sous la main dans nos placards? Je ne sais pas.
Tout à fait. Alors, au niveau des gommages, vraiment, les meilleurs alliés pour nous, ce sont pour éliminer les cellules mortes, pour redonner un vrai coup d'éclat. Moi, je vous suggère de prendre du sucre, du miel, des huiles végétales et bien évidemment notre chouchou, le fameux aloe vera. Donc, vous pouvez la prendre fraîche en magasin bio. Il n'y a rien de plus hydratant et de plus nourrissant que l'aloe vera. Donc, vous faites un petit mix de tout ça, bien assaisonné, et vous l'appliquez sur la peau, sur votre décolleté aussi, bien sûr. Et n'oublions pas aussi les mains. Parce que souvent, on a tendance à vraiment prendre du temps sur sa peau, mais on oublie le décolleté et on oublie les mains. Et donc, on en profite d'avoir le temps et de chouchouter entièrement le corps et le décolleté.
Jimmy, oui, tout le temps le décolleté. Allez-y, à vous, Jimmy.
Oui, mais j'ai appris qu'on pouvait faire aussi un masque avec des acides de fruits. Je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on fait, d'ailleurs?
Alors, c'est un masque ou plutôt un peeling à l'acide glycolique, donc les AHA. On les trouve souvent dans les agrumes, donc en fait ça a l'avantage d'éliminer facilement les peaux mortes en surface et ça stimule également la production de collagène. Donc encore une fois, c'est un véritable anti-ride. On peut prendre du jus de citron tout simplement, qu'on va appliquer avec une éponge à maquillage ou qu'on va appliquer avec un pinceau à maquillage parfaitement nettoyé. On va laisser poser 1 ou 2 minutes et on rince. Vous allez ressentir des petits picotements, c'est fait exprès. Les acides de fruits vont agresser la peau, mais qui dit agression dit stimulation des fibroblastes, dit donc fabrication de collagène, fabrication d'élastine, donc c'est tout bénef pour notre anti-rides.
Donc j'adore, moi, la recette avec le citron, j'en ai plein le frigo, donc ça tombe bien. Est-ce que, alors vous êtes une grande spécialiste du sourcil, vous étiez déjà venue nous en parler dans l'émission. Comment on fait pour les épiler correctement en ce moment? Déjà, il faut une pince en particulier ou la pince à épiler classique? Enfin, c'est quoi la préférée pour vous?
Oui, alors moi, il y a deux styles, il y a les biseautés et les crabes. Personnellement, pour une main qui est un petit peu débutante, je préfère les pinces crabes, c'est moins risqué pour se pincer. On les trouve encore une fois très facilement en ce moment en pharmacie, donc il n'y a aucun problème. Et j'ai une petite astuce pour vous, pour celles qui ont des poils un petit peu plus épais au niveau du sourcil et qui ont tendance à faire
c'est
des
Jimmy
poils
surtout,
incarnés.
Hein, moi ça va.
Alors,
lui c'est broussailleux, hein, mais moi ça va.
Alors Jimmy, j'ai une petite astuce, il faut que vous achetiez une petite pince à écharpe, ce sont des pinces très pointues, du coup vous pouvez aller chercher les petits poils qui ne sont pas encore sortis mais qui peuvent créer des petits boutons. Et avec un peu plus
Quelle
de sérieux...
Angoisse.
Oui, et avec un petit peu plus de sérieux, pour les sourcils broussailleux, Jimmy, il faut que vous preniez un petit goupillon, vous mettez tous vos poils de sourcils vers le haut, et vous coupez avec des ciseaux très fins, vous pouvez trouver ça aussi en pharmacie, des ciseaux de cuticule, vous coupez, vous égalisez les pointes qui dépassent de la ligne naturelle de vos sourcils.
Oui, j'allais dire, il faut faire attention parce que là, Jimmy, vous avez décrit.
Moi,
j'ai peur qu'il fasse un carnage.
Je suis le fils spirituel d'Emmanuel Chien, en fait. Donc, à quelques semaines près, je suis prêt d'avoir le mono-sourcil. Mais bah, on fait comment pour avoir une bonne forme de sourcil? Juste, on dégage qui dépasse, c'est ça?
Alors, pour avoir une bonne forme de sourcil, il y a une façon un petit peu simple, j'ai envie de dire. Vous prenez un crayon à maquillage, à la verticale, vous faites une ligne imaginaire entre le coin du nez et le coin interne de l'œil. Et là, vous allez avoir votre début du sourcil. Ensuite, vous faites coin du nez, pupille, vous allez avoir le point de hauteur de votre sourcil. Et pour avoir la queue de votre sourcil, vous faites coin de nez, coin externe de l'œil, et là vous aurez la fin de votre sourcil. Vous faites des petits repères, tout ce qui dépasse, vous retirez. Mais attention, un sourcil trop épilé, ça peut vite être la catastrophe. Il faut savoir que les sourcils ont un cycle de repousse de X fois. C'est pas comme les jambes, c'est pas comme les aisselles où ça va repousser à vie. Ça a vraiment,
c'est-à-dire en moyenne, on sait, ça repousse combien de fois un sourcil dans la vie.
Non, ça dépend de chaque personne, mais c'est vrai que on a trop souvent entendu parler, moi qui suis spécialisée de la dermopigmentation, on a trop souvent entendu parler de femmes qui se sont dit, je suis allée me faire une épilation, on m'a loupé, mes sourcils n'ont jamais repoussé. Et là, c'est vrai. Une mauvaise épilation,
j'en ai entendu plein. Hein,
voilà, une mauvaise épilation peut malheureusement créer un problème au niveau de la repousse. Donc, bien évidemment, on fait très attention. Il vaut mieux épiler moins que trop. Juste on nettoie, histoire d'être présentable là pour quand on va pouvoir recommencer à travailler.
C'est ça, et ça on peut le faire effectivement tout à fait à la maison. J'en profite juste pour terminer sur le visage. En ce moment, vous l'avez dit, on n'a pas besoin de se maquiller. Moi personnellement, je pense que tout mon mascara est complètement séché. J'ai laissé tomber depuis 8 semaines. Ça c'est bien de ne pas se maquiller, comme ça fait vraiment un souffle pour le visage. Ça va, le retour, je veux dire, après, la peau en aura profité, je veux dire.
Complètement. Vous avez certainement dû toutes remarquer, celles qui nous écoutent, que comme par hasard, vous n'avez plus de petits boutons. Comme par hasard, vous n'avez plus de petites démangeaisons, de choses comme ça. Bien évidemment, quand on abuse du maquillage, quand on abuse de la pollution extérieure, la peau trinque. Donc le fait de rester tranquille à la maison, de chouchouter, de faire des gommages, des masques, de bien hydrater et de ne pas mettre de maquillage, bien évidemment, ça facilite. Mais moi, j'ai aussi une petite astuce pour votre mascara qui a séché, Mélanie.
Ah,
vous
dites-moi.
Vous pouvez rajouter une petite huile. Et laquelle ? La petite huile de ricin, la fameuse, celle qui fait pousser les cils. Non seulement votre mascara. Ah ben non, votre mascara sera neuf comme neuf. Les pigments noirs seront de nouveau dilués. Et vous aurez en plus la chance d'avoir des cils qui vont pousser beaucoup mieux grâce à l'huile de ricin. Ne l'oublions pas.
C'est génial, je vais faire ça directement. Je vais faire des économies et en plus, je récupère un mascara encore plus nourrissant. Merci, Maud Ravi. On n'en a pas terminé avec vous. On vous retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à écouter les conseils beauté de Maud Ravier. Et plus précisément, on va partir à la chasse aux poils, mais alors sur le corps cette fois. C'est un casse-tête parfois pendant le confinement. L'épilation à la cire maison, c'est un peu difficile, voire même acrobatique quand on n'a pas l'habitude de faire ça tout seul. Eh bien, on vous dit tout dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed qui est passionné aujourd'hui parce que vraiment il en avait besoin. Elle est toujours en ligne avec nous pour aider le docteur Jimmy Mohamed, Maud Ravier et vous bien sûr qui nous écoutez. Maud Ravier, vous êtes esthéticienne et fondatrice de Maud Dermo-Esthétique. À présent, vous allez nous aider à gérer les questions d'épilation en mode confinement. Alors, on a déjà un petit peu parlé des sourcils, mais on va parler du reste hein, parce qu'il y a des poils, il n'y en a pas que sur le visage. Avant de s'épiler, est-ce qu'il faut préparer sa peau? Par exemple, je sais pas, on parlait des gommages pour le visage, est-ce que sur le corps, sur les jambes par exemple, peut-être même, je ne sais pas, hein, les aisselles et le maillot, pourquoi il faut le faire, pourquoi c'est important?
Tout à fait. Alors pour éviter l'apparition de poils incarnés, il est vraiment préconisé de faire des gommages assez régulièrement. Alors une fois que vous avez décidé de faire votre épilation, moi je vous conseille de le faire 48 heures à l'avance. Mais vous pouvez le faire aussi après, parce que dès que la pousse du poil va recommencer, il risque de s'incarner. Et le fait de venir gommer, ça va vraiment faciliter à une sortie de poil plus lisse et plus facile au niveau de la peau. Mais
donc
encore
48
une fois,
heures avant.
Oui, 48 heures avant et régulièrement, on va dire une semaine, 10 jours après pour justement éviter qu'il y ait des poils incarnés. Et j'ai une super astuce aussi pour ces poils incarnés. Dans la douche, vous prenez alors une œuvre, bien évidemment, hein, vous prenez pas celle de la cuisine, vous prenez une Scotch Brite, vous savez, les éponges très fines.
Ah,
vous
prenez vraiment...
Et oui, c'est magique, c'est-à-dire que... Mais oui, alors c'est pas très glamour, bien évidemment, on essaie de faire ça avec un peu de discrétion.
On s'en fout, on est entre nous là, allez-y.
C'est ça. Alors Jimmy, le Scotch Brite dans la douche, c'est génial, donc n'hésitez pas. Les poils incarnés, c'est fini.
Parfait, donc le gommage sur le corps, on le fait avec ça, c'est parfait, c'est une bonne astuce. Alors sur les jambes, peut-être pas après sur les zones plus sensibles comme les aisselles et le maillot, hein, quand même pas, hein, on est d'accord.
Tout à fait, alors ça c'est vraiment une astuce qui fonctionne, mais ensuite vous avez des très bons gommages que vous pouvez faire à la maison, à base donc de sel, de huile d'olive, et puis vous pouvez aussi toujours rajouter une petite goutte d'huile essentielle, par exemple de rose, pour l'odeur. C'est toujours plus agréable d'avoir un petit peu d'huile essentielle dans ces mélanges-là fait maison.
Docteur Jimmy Mohamed, je sais que vous avez plein de questions, allez-y.
Oui, je ne savais même pas ce que c'était que cette éponge. Mais ensuite, pour faire l'épilation, de quoi avons-nous besoin?
Alors, pour faire l'épilation, il y a deux solutions. Soit vous allez en supermarché, vous achetez donc les fameux cires que vous mettez au micro-ondes, à spatule. Ah oui. C'est un petit peu difficile, donc moi je vous conseillerais plutôt les cires à bandes. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui n'est pas expert en épilation.
Je confirme, puis, hein, c'est plus pratique. Et puis moi, je me suis brûlée déjà avec de la cire.
Il faut faire très difficile à
manier, ouais, c'est vrai.
D'accord. Tout à fait. Il faut faire très attention. Et puis, ce n'est pas le moment de se brûler ou de se faire un suçon, de se blesser et d'aller aux urgences, vraiment. Donc, on va vraiment privilégier des cires qui sont faciles d'utilisation. On va privilégier aussi les zones faciles. Donc, j'ai plutôt envie de dire... les jambes, demi-jambes, et puis pour les parties intimes, les aisselles, j'ai envie de dire qu'il vaut mieux faire attention et passer sur des façons d'épiler un petit peu plus faciles, comme des crèmes dépilatoires. Je sais, c'est pas bien. C'est une esthéticienne qui parle, qui vous
mais
dit
oui,
que oui, pendant le confinement, allez-y, vous pouvez profiter de ne
vous
pas souffrir avec votre rasoir. Mais oui, je sais, mais je préfère ça, sans mentir, que de vous voir brûler ou de ne pas pouvoir tirer sur la bande et, que, et qu'il arrive un drame. Donc, mesdames, messieurs, si au besoin, vous avez le droit d'utiliser la crème dépilatoire au moins pendant le confinement. Mais après, on retourne chez l'esthéticienne et on se fait chouchouter de nouveau. Hein.
Parce que moi, j'ai très peur que le poil durcisse après, du coup, quand, après des années d'épilation à la cire, on se dit on va tout louper avec un coup de dent. Une ou deux fois de crème d'épilation, ça va, des dépilatoires, ça va pas faire rendre le poil très dur. Et non, c'est pas risqué.
Si vous faites ça une ou deux fois, il n'y a pas du tout de risque. Il y aura vraiment plus de risque de vous brûler que d'avoir un poil qui repousse trop dru.
Jimmy.
Alors ce débat d'experte me passionne et surtout je suis un novice et je bois vos paroles, mais alors on a toujours dit qu'il fallait arracher les poils justement dans le sens du poil, c'est ça, mais pourquoi? Je crois que c'est dans le sens inverse.
Ça dépend des zones. Alors sur le visage, on va plutôt être dans le sens de la pousse du poil pour éviter que le poil ne casse, et puis ce sont souvent des poils fins, donc ils ont tendance à casser plus facilement, alors qu'effectivement sur, on va parler des jambes, donc sur une épilation au niveau des demi-jambes, on va tirer dans le sens inverse du poil, pour tout simplement avoir une belle épilation, et que le poil ne casse pas pour le coup, c'est complètement l'inverse que sur le visage. Donc, et on fait du talc.
Ah oui, du talc à la fin. Est-ce que vous avez une astuce? Parce que bon, c'est pas que ça m'intéresse, hein, mais quand même, si. Est-ce que vous avez une astuce pour la face arrière des jambes, j'allais dire? Parce que c'est pas évident quand même quand on est tout seul et on n'a pas forcément d'envie de demander à son conjoint de faire ça. Comment on peut s'y prendre de face sauvage? Je sais pas, c'est quoi la meilleure technique?
Eh bien, j'ai envie de dire qu'on se retourne au maximum, on remonte le plus loin possible sans se faire un tour de dos. Et puis, une fois qu'on peut plus aller jusqu'à l'arrière, eh ben, on prend notre meilleure amie qui s'appelle la crème dépilatoire. Parce qu'à un moment donné, voilà. Ou alors, vous pouvez aussi vous allonger sur votre lit, plier la jambe très, très haut pour faire la fin de l'arrière de la cuisse. C'est tout à fait possible aussi. Mais je suis pas sûre que ça soit très pratique non plus.
On va être quand même très contente quand les salons et les esthéticiennes vont pouvoir reprendre du service. Elles en ont envie, et nous aussi, on a envie de les retrouver. Hein. un dernier conseil pour peut-être les petits boutons. À la fin, vous disiez du talc. Le talc, ça sert à quoi, en fait?
Voilà, si vraiment vous prenez l'envie de vous épiler à la maison, le talc sera votre meilleur allié, tout simplement, parce qu'il va éviter, pour les peaux qui sont humides, moites, il va éviter de trop adhérer et justement de créer un suçon. Donc le talc est très important pour une épilation à la bande. Et ensuite, pour après l'épilation, la peau réagit en créant une inflammation. Donc, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, des huiles végétales qui vont hydrater, nourrir la peau, surtout calmer le feu de l'épilation. Et ça va combattre l'inflammation en évitant les petites infections des peaux sensibilisées.
Si j'ai une petite recette, si vous le voulez. Merci beaucoup. Oui, dites-nous, allez-y, on termine rapidement. Je vous écoute.
Alors, on termine rapidement. Huile essentielle de géranium, eucalyptus, huile végétale d'avocat et on est au top.
Super. Bah écoutez, merci beaucoup Maud Ravière d'avoir été avec nous pour nous donner tous vos conseils beauté. Car même confiné, on l'a compris, ça fait du bien et c'est très important de prendre soin de soi. Jimmy a tout bien noté à la sortie du confinement, je suis sûre que je ne vais pas le reconnaître. Merci encore.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc qui va aujourd'hui nous parler des difficultés des célibataires en quête de l'âme sœur pendant ce confinement. Avant ça, place à un peu de musique. On va écouter un morceau de Thomas Dutronc. Ça tombe bien juste avant de parler d'amour. Ça s'appelle « Plus je t'embrasse ».
Let's be happy. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace. Plus j'aime t'enlacer, le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lacets. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans le. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Oh, oh, oh. Plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser.
C'était Plus je t'embrasse de Thomas Dutronc.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, alors elle rentre pas dans le studio puisqu'on n'y est pas, je dis ça d'habitude, mais elle arrive avec nous par téléphone, Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Nous rentrons symboliquement dans le studio, nous nous réunissons.
Voilà, allez, on y est, on imagine. Alors voilà. Catherine, aujourd'hui on va prendre la question de Sophie. Sophie, elle a 26 ans, elle nous écrit la chose suivante. Je suis célibataire et je commence à me dire que je risque de ne pas avoir de rapport sexuel avant un bon bout de temps, même à partir du 11 mai. Les bars et les clubs seront fermés, or c'est généralement là-bas que je drague le plus souvent et les sites de rencontres ne me correspondent pas. Cela m'angoisse, qu'en pensez-vous Catherine? Catherine, on sent que Sophie, elle a l'air quand même très inquiète. Est-ce qu'il faut s'angoisser à ce point-là, selon vous?
Non, s'angoisser, non. Maintenant, on peut comprendre que le temps s'est étiré de célibat pendant ce confinement. On peut comprendre que se pose la question, de toute façon, en général, moi, c'est une question que j'entends souvent. Comment je vais rencontrer quelqu'un? Moi, les sites de rencontre, c'est pas mon truc. Moi, mes amis, on tourne en rond avec des gens qui sont déjà en couple ou des gens qui sont comme moi, des célibataires, mais qui ne me correspondent pas. Les groupes d'amis n'évoluent pas. Donc, nos lieux possibles de nouvelles rencontres se font dans des lieux publics que sont les bars, les boîtes de nuit, etc., qui sont des lieux où on peut se dire qu'on est là pour se rencontrer les uns et les autres. Donc, évidemment que c'est a fortiori dans ces lieux-là qu'elle a l'habitude d'aller, si ce n'est draguer, en tout cas se montrer, en tout cas mettre tous ses atours à l'œuvre pour pouvoir faire les rencontres avec des inconnus qu'elle croiserait dans la rue, mais auprès desquels elle ne s'arrêterait pas nécessairement, parce que la rue c'est pas bien, parce que c'est pour d'autres filles que elle. Voilà, donc évidemment que cette question se pose toujours, c'est-à-dire c'est difficile d'aller rencontrer des gens, et si maintenant tous ces lieux sont des lieux fermés, des lieux interdits, et qu'il ne reste plus que les lieux d'impossibilité, que ce soit professionnel, parce qu'il faut se tenir à bonne distance pour des raisons professionnelles.
Pour rencontrer l'amour de sa vie à la pharmacie, pourquoi pas?
Exactement, simplement il faut oser parler. Et le problème c'est qu'aujourd'hui effectivement on va se retrouver à devoir parler les uns avec les autres, à devoir se sourire, et il faudra que les yeux soient rieurs puisque les bouches ne pourront pas exprimer ce sourire de façon très nette. Il va falloir pouvoir se donner de la valeur les uns et les autres malgré une distance de rigueur, et évidemment que tout cela pose la question, même quand les rapprochements se font, il y a toujours ces masques, quand est-ce que les masques tombent pour justement se rencontrer plein de nos désirs, puisque cette histoire de masque, c'est bien aussi tous les masques que nous mettons pour camoufler nos désirs par pudeur. Et là, tout d'un coup, il va falloir essayer de dépasser nos pudeurs plus encore, puisque des masques réels, ceux-là, viennent nous mettre à distance les uns des autres.
Alors lui, il a les yeux rieurs, même avec un masque, docteur Jimmy Mohamed.
Oui, parce que là, ce qui est étrange, c'est qu'elle dit que, bon, que les sites de rencontre ne lui correspondent pas, je peux comprendre, mais elle parle d'angoisse. Est-ce que malgré tout, il faut faire un effort, se forcer, tenter, et puis on verra bien ce qui se passe, non ?
Oui, bien sûr qu'on pourrait se dire faire un effort. Ceci étant, vous savez, je crois que l'effort, se forcer est bien pour sortir de sa zone de confort, pour explorer d'autres choses. Mais pour nombre de gens, c'est anxiogène parce que on ne sait pas très bien à qui on s'adresse, on n'a pas la maîtrise de la situation. Est-ce que ça va pas être relayé? Est-ce qu'on va pas se moquer de moi? Est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce que du coup, on va partager ça avec ses collègues, mes collègues? Donc, pour beaucoup de gens, le cadre du net n'est pas du tout un cadre net, justement. Et c'est un cadre plutôt anxiogène. Donc, pouvoir un peu plus maîtriser la relation dans l'échange avec l'autre, quand bien même on ne maîtrise évidemment pas tout, pour nombre de personnes, c'est quand même la situation préférable. Et puis, je dirais que c'est aussi la plus naturelle. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Quant à l'angoisse, évidemment, on pourrait se dire que c'est pas grave. C'est l'histoire de quelques mois, de quelques semaines peut-être. Évidemment que la vie
va reprendre son cours. Elle n'a que 26 ans, donc les choses peuvent changer. Elle peut même, elle, prendre de l'assurance et peut-être que même, je ne sais pas, finalement, découvrir que les sites de rencontres, ben, c'est peut-être pour elle aussi, on ne sait jamais.
Bien sûr, bien sûr. Maintenant, l'idée de l'âge, évidemment, du point de vue de plus âgé que nous sommes par rapport à elle, c'est tout jeune. Pour elle, c'est peut-être déjà un temps où sa maman était mariée, avait déjà des enfants, où sa sœur, son frère le sont déjà, où ses copines sont déjà en couple. Et pour les jeunes femmes de 26 ans qui approchent leur trentaine, pourtant elles ont encore vraiment du temps, notamment pour la maternité, mais monte le stress, l'angoisse de ne pas avoir élaboré de relation. C'est bien au-delà du désir sexuel, c'est l'idée d'être en capacité de créer un couple, de créer une relation qui puisse s'éprouver sur le temps avant de peut-être de s'éteindre pour une prochaine. Et du coup, ça met un peu plus de pression, donc un peu plus d'angoisse, d'où le terme que relevait Jimmy, qui est effectivement un terme presque démesuré par rapport à la situation, mais qui rend bien compte de l'état d'esprit dans lequel une jeune femme de 26 ans peut être en temps général et qui plus est nourrie et abreuvée à l'anxiété de ce Covid.
Une dernière petite question rapide, Jimmy.
Oui, est-ce que vous pensez, alors je ne parle pas pour Mélanie ni pour moi, mais est-ce que vous pensez que la drague va changer, qu'avec le Covid, finalement, plus rien ne sera jamais comme avant dans le rapport aux autres ?
Je crois qu'inévitablement, nous allons devoir toujours nous adapter à de nouvelles données. Celles-ci en sont de nouvelles. Mais c'était déjà le cas. Les hommes ne draguent plus comme ils draguaient avant. Les femmes ne draguent plus comme elles draguaient avant, au prétexte de tous les autres événements qui ont défrayé la chronique que vous savez très bien. Donc de toute façon, il faut faire évoluer sa drague. Et heureusement, à chacun de trouver son modèle, son élan et l'expression de ses désirs.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy, on se retrouve bien sûr demain dès 15h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur ou sur le hashtag Radio Ouverte. À présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.